Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en janvier 2026 et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
La forme. Comment
ouais,
ça va?
Ouais, ça va. C'est cool. La saison continue. On fait du ski, on fait du code. Pas trop de code, donc c'est cool. ça fait du bien aussi de lâcher. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je reviens derrière le clavier, c'est toujours. Ouais, c'est en fait, c'est une petite bulle d'air qui, quand tu as passé toute ta matinée à faire du ski, tu arrives l'après-midi, tu vois, tu es bien pour aller coder. Et ça, c'est cool. Donc,
mais c'est clair.
C'est un gros bonus. Et c'est un gros plaisir de pouvoir, une grande chance, en fait, de pouvoir faire à la fois du ski et à la fois bosser sur les projets avec mes clients et tout ça.
Mais c'est clair. C'est mais en plus, bien. Dans une des meilleures stations françaises, en plus.
Ouais, mais ça, c'est, on est complètement d'accord.
Mais on dira pas où. Mais les auditeurs vont venir te voir.
Mais les clients, en fait, tu vois, les clients, on dit toujours, pour ceux qui ont des doubles activités, tu vois, on dit, ouais, en fait, je veux pas dire que je fais ça, tout. Moi, j'ai longtemps été comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le jour où j'ai admis et je me suis vraiment présenté comme ça, où j'ai dit, bah oui, je suis moniteur de ski l'hiver et je fais du code toute l'année. En fait, tous mes clients, au départ, sont un peu choqués. Et 10 secondes après, et je dis bien 10 secondes, donc ça va très très vite, tout le monde me dit « Non mais en fait, t'as trop raison, si tu peux le faire, fais-le, tout. » Et en fait, le seul truc qui regarde les clients, c'est est-ce que justement, bah, est-ce que tu livres? Est-ce que l'échange que t'as avec eux, est-ce que t'es disponible quand il faut? Est-ce que t'es là quand il faut? Est-ce que tu réponds à leurs besoins? Quelle valeur tu amènes sur la table pour répondre voilà, est-ce que t'amènes la solution à leurs problèmes? C'est uniquement ça. Après, que tu sois au ski, que tu gères ta vie comme tu veux, on s'en fout un peu. Enfin, eux, ils s'en foutent. Et donc, ce qui, moi, en tout cas, m'amène un bon équilibre, en tout cas. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important.
Mais on ne saura que recommander de faire, alors pas d'être moniteur de ski, mais de ne pas faire que de l'ordinateur, de l'écran et sortez dehors, aller courir, aller faire du ski, du plein air, ça fait du bien. Et c'est souvent là où les meilleures idées ressortent, en fait.
Ouais, mais le nombre de fois où t'as un bug, t'es bloqué et tout, tu sors dehors, tu vas faire autre chose et bam, tu reviens et en 10 minutes, c'est torché parce que tu dis, ah ouais, putain, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est trop, trop bien. Bon, allez, sur ces bonnes résolutions montagnardes et d'outdoor et de plein air et d'oxygénation du cerveau, on va parler d'Astro, de Claude Flair, de la renaissance de jQuery, j'ai vu, un truc de fou ça, de Laravel Boost, de Anime, JS, évidemment, des modèles IA qui vont nous aider, des skills, des compétences, parfois en local aussi, bref, des tools aussi qui nous permettent d'être un peu meilleurs au quotidien. Voilà, ça, c'est le programme de cet épisode de news. On attaque tout de suite, Patrick?
Mais carrément.
Allez, feu. on commence par la première news qui est avec Astro. Claude Flair, c'est quoi? C'est un rapprochement? C'est un rachat? Ou c'est juste on signe des deals un peu plus forts pour faire
un écoute,
peu
c'est à peu près comme on a pu le voir pour Next avec l'équipe de Next Lab, comme on a pu le voir pour Bun, et maintenant c'est Astro. C'est tout simplement les sociétés qui sont derrière les outils qui restent de toute façon open source, hein, comme Nux reste open source, Bun aussi, et Astro restera open source en licence MIT, je crois. C'est juste les boîtes qui sont derrière, en fait, qui font tourner ça, qui codent dessus, tout ça, enfin, qui contribuent au projet, bah, sont rachetées petit à petit par des grosses sociétés qui les intègrent. Alors, est-ce que c'est pour soutenir les projets open source, ou est-ce que c'est pour récupérer des compétences? Je ne sais pas, mais en tout cas...
Et si c'était les
maintenant,
deux
l'équipe,
et c'est si peut-être c'était les deux aussi, ouais. Tu vois, en fait, on dit souvent en fait que le gros problème de l'open source, c'est que bah, il faut le financer. Et donc, le fait que les grosses compagnies rachètent toutes ces sociétés ou ces labs ou en tout cas les acteurs majeurs de l'open source, En fait, ça vient aussi pérenniser le système. Par contre, évidemment, ils vont avoir un biais. Et on le sait, et on l'a déjà vu avec React, Vercel. Aujourd'hui, Vercel va avoir un impact de ouf sur Next, parce qu'en fait, ils ont débauché taquet de mecs qui bossaient chez React. Ils sont passés chez Vercel, parce que en fait, c'est Vercel qui porte le projet Next. Donc, par définition, ça peut. C'est normal qu'il y ait un impact. Donc, en fait, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Moi, je pense qu'il y a quand même une philosophie derrière. Ils ont conscience que l'open source, de toute façon, c'est là pour durer. Ça va rester en place. Donc, de toute façon, on pourra pas faire. Aujourd'hui, l'industrie est en place, et autant que ça soit porté par des grosses boîtes qui évitent en fait que le projet en fait meure instantanément ou au bout de 2 ans, tu vois, se faire racheter par une plus grosse ou une plus petite ou de taille moyenne, et au final que ça meure, quoi.
Ouais, non, mais ça donne de la pérennité au projet, c'est cool. Si derrière Cloudflare souhaite que ça reste comme c'est, et puis voilà. Si donc non, c'est plutôt rassurant d'un côté, puisque tu sais que voilà, il y a de l'argent maintenant dessus. Donc ouais, c'est une bonne ou peut-être une mauvaise, on saura dans quelques années.
Ouais, je pense que en fait c'est vraiment l'avenir nous le dira en fait. Tu vois, de la même manière qu'on a eu le rachat de Vercel. Le rachat de Next par Vercel, pardon. En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est bien? Évidemment que quand ils font l'annonce, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tout se passe bien le jour du mariage, quoi. Tu vois.
Pour Next, moi, ça me fait pas trop plaisir parce que c'est une boîte française qui passe aux États-Unis, donc c'est très cool. Pour une fois, on avait quand même une boîte qui faisait un super outil, framework, JS et tout ça.
Fleuron.
Bon. Un fleuron, ouais, c'est, y en a pas beaucoup. Bon, bref. Voilà, quoi. Bon, on verra.
Toujours est-il, ça bascule dans le giron. Allez, autre news aussi, LiveWire, on a fait un épisode dessus, on a fait un workshop où tu nous avais montré un peu tout le fonctionnement de LiveWire. Là, par contre, c'est officiel, c'est passé en version 4.0.0.
Ouais, il vient de sortir en 4.0.0 et donc ils ont beaucoup bossé dessus. Enfin, c'est Caleb Bordiaux qui bosse beaucoup dessus, entre autres. Et c'est beaucoup, beaucoup d'améliorations de performance, de simplification de component. Maintenant, le component par défaut, c'est le truc qui ressemble un petit peu au Vue avec le JS, PHP et CSS. Enfin, voilà, beaucoup d'améliorations, énormément de. Voilà, c'est que de l'amélioration. Ça a été assez rapide parce que la 3 n'est pas sortie il y a très longtemps. Et du coup, la 4 est déjà dispo, donc il y a une migration à faire avec quelques... De toute façon, ils indiquent tous les éléments à changer pour la migration. Voilà, des petites nouveautés comme les Island Components, qui sont réactifs que quand ils sont vus, etc. Ils sont chargés en différé, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, pour rappel, comme tu dis, on a fait un workshop sur LiveWire où je montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc LiveWire, pour rappel, c'est un système qui est basé sur Laravel, et qui permet de faire du JS sans faire du JS, en gros, de rendre toute interface interactive avec du JS, etc., mais sans écrire la moindre ligne de JS, et tout est connecté avec le back, le front, et c'est vraiment excellent. Et donc, voilà. Donc, on remettra le lien du workshop, si ça vous intéresse.
Carrément. C'est le retour de jQuery 4.0. Non, mais
il est jamais mort en fait.
Ouais, c'est un truc de ma boule. Moi, je me rappelle qu'on avait fait un épisode en disant les gars, il faut qu'on arrête jQuery, c'est fini aujourd'hui.
Oui, on avait fait jQuery ou pas en 2000.
2022 peut-être. Les gars, faut arrêter. Et au final, on se retrouve en 2026 avec cette nouvelle version de jQuery. Et là, tu te dis, ça, c'est complètement lunaire, quoi.
En fait, jQuery, oui, est jamais mort, en fait. Ça fait 20 ans que ça existe. Et ça, il est énormément utilisé. C'est peut-être le truc le plus utilisé, hein, puisqu'il est d'office. Sur certains CMS, etc., du type WordPress, Donc, il est inclus dans beaucoup, beaucoup de trucs. Et c'est normal, puisque 20 ans quand même d'usage, donc il y a forcément beaucoup de code qui l'utilise. Et la version 4, ça fait un petit moment qu'il travaillait dessus. Et bah, la principale nouveauté, en fait, c'est de l'allègement. C'est beaucoup de... Bah, ils ont droppé IE11, évidemment. Normal, quoi. Ça fait longtemps qu'il est mort.
Je suis mort. Bon, ouais. Ok, super.
Non, rigole pas. Non, en gros, ils ont vraiment enlevé du code legacy, droppé les vieux navigateurs, passé en module en ECMAScript. Donc voilà, tout s'est modernisé, en fait, et du coup, elle est beaucoup plus légère. Il y a même une version super slim, je crois, qui est ultra light. Donc voilà, c'est pour les gens qui l'utilisent, c'est une bonne nouvelle parce que tu vois, peut-être qu'au lieu de réécrire toute l'application, tu peux peut-être passer sur jQuery 4 et alléger du coup ton code, donc sans c'est changer grand-chose.
Ouais, c'est vrai que c'est souvent un argument qui était mis en avant sur le fait que, ok, on va alléger le code pour que ça soit plus rapide. On connaît l'impact des chargements script tiers, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a un impact massif sur la performance, et la performance est importante aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que ça va peut-être permettre d'alléger et de rendre les applications plus rapides. Ouais. Après, je sais pas. Je restais encore sceptique quant à l'utilisation, mais comme tu l'as dit, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est encore une librairie qui est hyper utilisée parce que ouais. WordPress le met pas par défaut, mais il y a encore beaucoup de versions qui.
Et d'autres aussi. Hein.
Qui l'utilisent, quoi. Donc.
Et t'as même des gens. Enfin, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait même. J'ai déjà vu des personnes qui ne savaient pas coder en JavaScript Vanilla et qui avec codé
du JS,
mais que via jQuery, en fait, ouais. Avec des dollars, machin, tout ça. Et c'est vrai que le code est beaucoup plus concis, plus simple et tout ça, mais bon.
Les navigateurs ont toujours évolué.
Bon, on va pas refaire l'épisode de 2022.
Exactement. Ne fais pas ton puriste, Patrick. Ne fais pas ton puriste.
Non, mais bon.
Allez, on passe sur des trucs où ça bouge dans tous les sens. AnimeJS, qui vient avec une nouvelle feature qu'ils appellent Layout. Qu'est-ce que c'est, en fait ?
En fait, c'est un système, enfin, c'est des fonctions qui te permettent, en fait, de passer d'un layout à l'autre. Donc, il y a différents exemples. Mais ne serait-ce que de changer, tu sais, tu es en flex row et tu passes en flex col et du coup colonne, parce que col c'est en Tailwind, et du coup bah en fait ça c'est animé, ton changement est animé, les éléments bougent de tout seul, en fait.
Donc c'est en fait c'est sur tes breaking points de tes media query breaking point en CSS, quand tu bascules d'un état à l'autre, en fait, cette transition va être animée avec le moteur AnimeJS, c'est ça ?
Oui et non. En fait, c'est même juste en changeant la classe. Rien qu'en changeant, en mettant en row ou pas, ou en l'enlevant dans tes classes, et les éléments bougent.
Ah,
et,
d'accord.
Mais sans rien faire, en fait. Le code est hyper concis. Et, enfin, il y a des exemples, tout ça. Et c'est assez fou, en fait.
Ok, donc
si en fait... Tu cliques sur le deuxième truc, là, tu vas voir... pas celui-là, le deuxième après, celui-là, voilà.
Et pour le
et
coup.
En fait, si tu cliques Animate, tu vois, il passe juste de row à col et ça anime les deux éléments.
Ok.
T'as le code à côté et il n'y a rien, en fait.
Ouais, je comprends très, très bien. Et est-ce qu'on n'est pas, en fait, un petit peu sur la même idée que une librairie qui s'appelait Auto-anime, je crois, ou auto-animate, ouais. Où justement, quand on venait rajouter un élément dans le DOM, en fait, il était automatiquement ajouté, il était automatiquement animé. Et là, en fait, c'est un peu le même concept, sauf que c'est avec, là, pour le coup, comme on voit les CSS selectors et les éléments du DOM, quoi. Donc, comprends très bien.
En fait, là, tu vois, quand tu regardes si tu peux revenir sur celui d'avant, où on voit le code, ouais, celui-là, si tu regardes le code qui est à droite, tu fais un create layout, tu vois, sur les deux blocs, et ensuite tu vas update le layout en changeant la classe. Et je pense qu'en fait, il y a une sorte de. Quand tu crées ton layout, alors j'ai pas creusé le truc, mais j'imagine qu'il fait une diff entre les deux. Entre avant deux états, en fait, je pense, et du coup il l'anime automatiquement, en fait. C'est d'être un truc comme ça, tu vois.
Ouais, très 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 puissant, très très très
puissant. T'as vu, il y a rien comme code, il y a quelques lignes et ça, ouais, c'est fait, quoi.
Et pour le coup, ouais, non, très très bien. J'ai cliqué sur quelque chose que j'aurais pas dû. Mais ok, non, très 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 fort. Parce que super super puissant comme,
Ouais.
comme déjà comme librairie d'animation, elle est très 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 forte. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les animations, on a fait. Un été, on avait fait une série sur les animations, à la fois de animation CSS, qu'est-ce qu'on doit faire en animation CSS pure. Après, on avait fait une émission spécifique sur les animations en JS, un petit peu plus compliquée, où en fait, on dit, OK, à partir de telle complexité, on va passer sur des animes, des animations en JS. Et après, on avait fini par des rendus 3D avec... des animations avec Bruno Simon, qui est la référence sur TriJS.
La référence.
Ouais, exactement. La
et
référence.
Qui vient de refaire son portfolio et
impressionnant.
C'est
ouais.
Ouais.
Vraiment
AnimeJS au passage. Ouais, pardon. AnimeJS au passage, c'est Julien. Il y a son nom en bas de la page, je crois. C'est Julien.
Frenchy.
Ouais, Julien Garnier.
Garnier.
Voilà, et qui est français. Okay.
Voilà. Très, 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 très belle, très, très belle librairie, beaucoup, une super API, une super doc, hyper puissant.
Axé sur la performance.
Et, donc, vraiment top. Nice, super. La suite, on bascule dans l'univers PHP avec du Laravel Boost. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais n'étant pas familiarisé avec cet écosystème Laravel, rappelle-moi, qu'est-ce que le Laravel Boost ?
Laravel Boost, c'est juste un système qui va te rajouter tout un système avec des MCP et tout ça pour que quand tu codes ton application dans ton éditeur, en fait, t'as déjà accès au MCP, etc. Pour le modèle, en fait. Donc, ça t'installe tout facilement. Et donc, là, ils viennent de sortir la version 2.0 où ça ajoute le système de skill dont on va parler après. Et du coup, voilà, j'ai testé tout à l'heure, là, j'avais pas encore testé. Et c'est super simple à mettre en place, ça rajoute des skills, et justement, on va en parler après, puisque il y a une sortie. Enfin, voilà, on en discute après. Je sais pas, j'ai pas spoilé.
Pas de spoil. Restez jusqu'au bout de l'épisode pour connaître ce que c'est. Très bien. Petit Twitter sur comment mettre en place Cloud Code en local. Et donc surtout gratuit, mais surtout private. C'est de plus en plus un sujet dans les entreprises où on veut justement garder un peu toute cette intelligence, ou en tout cas cette expertise du code. On veut pas l'envoyer sur des serveurs on sait pas d'où. On nous dit que c'est clean, mais en fait on sait pas trop. Donc par défaut, on est plutôt prévoyant et on dit que il faudrait plutôt faire du private.
Alors pourquoi j'ai mis ça parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y a énormément de alors on en parlait juste avant l'épisode, on est pollué sur X slash Twitter par des messages comme ça en fait, et pourquoi j'ai mis celui-là en fait, tout simplement parce qu'il y en a eu plein comme celui-là. Les mecs ont découvert dans la doc que Cloud Code on pouvait mettre Olama dessus. Ok, super. Bon, sauf que moi j'ai testé, j'ai dit ok, je vais tester. Non, mais en fait, le problème, c'est quoi, en fait? C'est que, mon gars, mais si tu veux faire tourner Olama avec un modèle assez puissant pour faire du code avec Cloud Code, mais faut changer d'ordi, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Voilà. En gros, il faut un truc super puissant. Et en fait, c'est, en gros, oui, ce qu'il explique, ça fonctionne. Tu peux le mettre en place, mais ça marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Voilà.
Ouais,
donc
ou alors
on est
pollué
par ce genre d'article,
de...
en fait.
Ouais, ou alors, en fait, ton inférence, elle va être tellement lente que tu vas mettre des heures et des heures pour sortir.
Moi, j'ai essayé avec, Quen 2.5 7B, là, qui est, puisque moi, j'ai 16 gigas de RAM. J'ai pas énormément de RAM, donc, mais c'est pas ridicule non plus. Mais c'est pas beaucoup. Ouais, mais bon. Et en fait, Quen, le petit modèle Quen ne tourne quasiment pas, en fait. Le truc, il rame, en fait. Après, ça te fait tout planter, etc. Donc, allez, imaginons 32 gigas. En fait, en gros, il te faut énormément de RAM, énormément de processeurs pour réussir à faire tourner un modèle qui va te donner des résultats concluants avec le code, en fait. Donc, voilà. C'est juste pour dire à tel point... C'est super, hein. Il y a des mecs, ils écrivent plein d'articles comme ça. Ils ont découvert que c'était... Mais en fait, c'est pas dans la vie réelle, en fait, ça ne marche pas, quoi, en fait. C'est juste ça.
Alors, est-ce que... Et moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Mais tu vois, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, par exemple, je suis une agence et je m'achète une putain de grosse machine pour faire que de l'inférence. Tu vois, mais vraiment, le but, ce n'est pas faire de l'entraînement, c'est juste pour inférence minimum. Ouais, enfin, tu vois, juste... je mets tous mes codes, je mets tous mes modèles et tout est en local, mais je mets une grosse, grosse, grosse machine. Est-ce que là, tu penses que c'est viable ou pas ?
Là, oui. Okay. Ouais, t'achètes un truc bien boosté, très, très puissant, tu mets les sous, quoi.
Okay.
Tu installes un modèle dessus, là, oui. Avec le réseau local, ouais, tu pourrais le faire tourner, ouais.
Tu vois, parce que je me dis, ok, nous, en fait, qui sommes seuls, où on va travailler en équipe, mais en équipe dispatchée et tout, donc au final, voilà, nous, on a meilleur temps d'avoir une inférence dans le cloud. Par contre, je me dis qu'une agence ou une petite équipe qui bosse sur des sujets où la priorité, en tout cas, il y a une grosse importance de privacy, de vraiment données privées, rester tout en local. Un investissement sur une machine un peu boostée, peut-être que ça vaut le coup, quoi. Peut-être que ça vaut le coup.
Ça peut valoir le coup, parce que de toute façon, oui, effectivement, tu as des politiques internes qui peuvent interdire d'utiliser des modèles extérieurs, ça, des clouds, etc. Et j'ai appris que ça s'appelait le shadow IT, en fait. Quand tu es dans une boîte et que les personnes utilisent leur compte privé ChatGPT et compagnie, ça s'appelle le Shadow IT. J'ai appris ça l'autre jour. J'étais tout content. Effectivement, comme il y a des politiques, on ne veut pas que les trucs sortent et tout ça. Et ils ont raison, parce que tu peux vite avoir des fuites de data, de clés API ou quoi que ce soit. Ça arrive très souvent et bien avant l'IA. Donc, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut, pour nous, en tant qu'indépendants, ça ne vaut pas le coup, parce que le prix qu'il faudrait mettre dans une machine, c'est trop cher. Après, pour une boîte, mettre peut-être 10 000 ou qu'un, je sais pas, un énorme ordinateur qui va tourner en réseau, ça peut le faire.
Payer l'inférence.
Mais d'ailleurs, je sais
pas. Ça se tient.
J'ai oublié, j'étais tombé sur un article, on en parlera pour le prochain épisode, mais où énormément de sociétés qui s'étaient lancées dans la création de modèles de chatbots, tout ça, interne pour la société, du type même, il y avait Société Générale qui avait lancé leur truc et qui sont en train de tous abandonner, en fait, parce que c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher à maintenir, tout ça, à faire tourner, etc., par rapport à utiliser du cloud pour les employés. Donc, je ressortirai pour le prochain épisode.
Nice.
C'est assez intéressant.
On sera là. Allez, justement, on reste dans le côté magique, justement, où là, il y a un article qui nous dit « Arrêtez de croire que c'est magique ». Regarder comment ça fonctionne. Quelle est l'idée derrière ce titre un peu arrogant en disant qu'on ne sait pas utiliser, qu'on ne sait pas utiliser.
Non, c'est pas ce qu'il veut dire. En fait, c'est pas magique. Ça reste de l'IA, c'est pas magique et il faut arrêter de croire, en fait. Donc, en fait, il explique dans l'article et je vous encourage à le lire, mais j'ai fait un résumé avec l'IA. Il dit ce que Claude Code n'est pas. Claude Code ne comprend pas le sens de l'intention et l'intention du code. Hein. Donc, il ne comprend pas le code, ce que peut faire comme un développeur humain. Il ne voit pas le code dans un IDE comme nous, on le voit. Tu vois, il ne voit pas le bloc de code, etc. Mm-hmm. Et il ne possède pas de conscience et d'intelligence sémantique réelle. Voilà. En gros, il dit, le code, Claude, il ne comprend rien, en fait. C'est juste... Comment il fait réellement le truc ? C'est qu'il fragmente le code, en fait, en token, puis il transforme en vecteur mathématique. Il utilise un modèle de transformer pour pondérer les relations entre les tokens et il prédit ce qui vient ensuite en se basant sur ce qu'il a vu sur des millions de dépôts de code publics. Voilà. C'est comme ça, en fait. Donc, en gros, il transforme le code en vecteur et il va chercher dans ce qu'il connaît pour voir ce qui ressemble et il prédit ce qui va arriver derrière, en fait. Ouais. Donc, il explique qu'il n'y a rien de magique, c'est juste un fonctionnement qui permet de faire ça et voilà. C'est comme on dit toujours, l'IA n'est pas intelligente, l'IA ne comprend rien, il faut savoir la faire fonctionner comme il le faut.
C'est que des probas. C'est des probas.
Voilà. Donc il faut arrêter. Alors le discours. Alors je pense qu'en ce moment, le discours au niveau de l'IA et du code et des développeurs, etc., est super anxiogène. Et j'imagine pas les juniors, tout ça, qui viennent d'arriver sur le marché depuis quelques années, tout ça. Et même moi, personnellement, c'est hyper anxiogène de voir tous ces outils qui sont capables de créer du code, etc. Mais attention, quoi. Voilà. C'est pas magique, c'est pas automatique. Et Voilà, c'est,
non, moi, c'est, tu vois, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le côté un newbie qui connaît rien, qui a aucune compétence avec l'IA, il va sortir un truc de qualité, de ouf, tu vois. Parfois, c'est un peu le discours qu'on entend. Et ça, pour le coup, là, je me dis, bah, vas-y, mec, vas-y, montre-moi, fais-moi ton prompt à deux balles, là, et enfin, vas-y, prompt, et sors-moi quelque chose de qualité. Ça, je suis beaucoup, beaucoup plus sceptique quant à vraiment la qualité du rendu. Par contre, par contre, quelqu'un qui a des très bonnes bases de développement, qui a structuré, sa pensée en niveau d'abstraction, ok, de telle manière, de telle architecture, de telle techno, et qui va orchestrer tous ses agents pour lui leur segmenter les tâches, voilà, avec tout un protocole de feuilles de route, de spec, de vraiment tâches, et tant que la tâche n'est pas réalisée, tu passes pas à la suivante. Voilà, tout ce protocole que aujourd'hui on appelle vibe coding dans un terme un peu, dans un jargon qui est un peu un mot un peu fourre-tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on n'utilise pas des bonnes méthodes et des bons protocoles pour se faire assister par tous ces agents-là, c'est sûr qu'on va avoir des trucs un peu nuls. Et en fait, il y a des fausses promesses qui sont faites, pour revenir dans le sens de l'article, où il y a vraiment des fausses promesses qui sont faites en disant, avec 3-4 lignes de prompt, en mode « fais-moi un site, machin, on va avoir un truc de ouf ». Ça, j'y crois pas du tout. Et malheureusement, en fait, cet article est déjà un petit peu technique, si tu veux, tu vois. Mais il faudrait montrer ça, en fait, aux personnes qui ne le sont pas, pour vraiment pour leur expliquer que c'est faux, en fait. C'est pas en 3 clics et en 2 prompts que tu vas faire ton appli from scratch, quoi. J'y crois pas.
C'est clair.
Il va falloir que tu segmentes, que tu sois très, très explicite. Et beaucoup de gens vont y arriver. Très bien, il y a plein de moyens de se former à ça. Mais je partage le sentiment que oui, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique.
Non. Et tu sais quoi, justement, je t'en parlais juste avant, je ne t'avais pas dit. J'ai fait un test. Alors, deux outils qui vont suivre, là, OpenCode et QuenCode. Alors, j'ai fait un test. Je lui ai demandé. Alors, ce n'est pas le prochain, mais.
OK. Bon.
En fait, le test que j'ai demandé à Quen, d'abord, c'était. Fais-moi une page HTML avec Tailwind CSS et avec tes principales commandes. OK. Donc, il me fait mon fichier index HTML et il me met Tailwind en CDN, normal. Okay. Ensuite, je lui dis, maintenant, je voudrais que Tailwind, tu me mettes Vite.js et que tu me mettes Tailwind en package dans Vite. Et bien, les deux ont fait la même erreur. Les deux ont fait la même erreur. Ils m'ont installé donc Vite. Bon, ça, c'est facile. Ils m'ont installé Tailwind et ils m'ont fait quoi? Et bien, ils m'ont installé tailwindconfig.js avec le Tailwind 4. Voilà l'erreur, en fait. Donc, quand ça part comme ça, et j'ai fait le test avec les deux, en fait, tu vois, et je vais pas lui expliquer comment faire, etc. Donc, ce que ferait un non-codeur, tu vois.
Ouais.
Et après, voilà, après est-ce que, là-dessus, déjà.
Est-ce que tu as utilisé les MCP? Est-ce que tu as utilisé.
Ah, ben non, je veux juste voir ce qu'il est capable de faire sans qu'on ait trop d'explications, tout ça. Et ça, c'est une erreur hyper basique, tu vois. Alors, oui, nous, on le voit, et c'est pas très grave, ça marchera, etc. Mais si tu le vois pas, ton code il est déjà legacy à peine t'as commencé à coder, quoi, en fait.
Ouais. Donc, bon. Tu commences déjà avec ta legacy. Et pour le coup, on a fait un épisode sur Context 7. Si t'avais utilisé Context 7, tu n'aurais pas eu cette erreur là.
Non, mais c'était vraiment un test. Hein. C'était vraiment un test
mais justement, de toute façon, c'est par définition, en fait, le modèle est déjà caduque, à la limite, au moment où il sort.
Oui, parce qu'il est entraîné à une date précise, ça s'arrête, quoi.
Exactement. Donc,
Et certainement avant Tailwind 4.
Exactement. D'où l'importance ouais. d'avoir des skills, des compétences, des skills. Ouais. Et donc, c'est devenu en fait quelque chose de, on va dire, un standard qui est sorti avec Claude Code. Maintenant, Cursor l'a intégré aussi dans sa dernière version. Ouais. De toute façon, quand il y en a un qui va sortir le deuxième à la version prochaine, il aura rattrapé le retard parce que c'est les deux qui se tirent la bourre. Tous ces skills-là, en fait, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Tout simplement, là, ça fait à peu près une semaine que... Ça, c'est Vercel qui l'a sorti, c'est un repo qui répertorie donc, tous les skills disponibles et que tu peux rajouter en une ligne de code. Donc, justement, là, il y a la fonction, tu vois, NPX skills add avec le repo que tu vas nommer. Et justement, juste avant, on parlait de Laravel Boost. C'est exactement la même chose. C'est Boost add. Et tu mets le repo comme sur la commande de skills. Donc et tu mets les mêmes trucs. Donc soit tu rajoutes... la plupart des trucs, c'est des GitHub. Hein, c'est des repos GitHub où les skills sont disponibles. Et il va te le rajouter en fait en ligne de commande. Il va te dire, OK, super, tu veux rajouter tel skill. Tu veux mettre sur quoi ? Claude Code, GitHub Copilot, etc. Et il va te créer les dossiers en fait avec les fichiers skills dedans en Markdown et qui seront en fonction de la techno que tu as choisi. Quoi.
Ok. Voilà. Et donc les skills, en fait, c'est des compétences que tu vas injecter dans ton contexte qui, au moment où tu vas demander en fait, d'exécuter ton agent, cet agent en fait, va prendre en compte ces compétences qui sont spécifiques. Là, je vois, on va sortir du champ du code, mais c'est du copywriting, donc c'est l'art d'écrire pour convaincre et vendre. En fait, et là, en fait, il y a une sorte de présentation de dire, OK, qu'est-ce qu'un bon copywriter, quels sont les exemples, les principes, comment tu vas valider la qualité de ton output, quels sont les best practices, est-ce que tu vas utiliser un framework pour écrire ton texte, tu vas mettre un call to action, tu vas mettre donc toutes ces compétences là en fait sont écrites dans un fichier MD qu'on va venir injecter au moment qu'on va venir ajouter aux skills qui va permettre à l'agent en fait de venir enrichir ses compétences. Et ça
normalement
normalement
il sait les chercher tout seul en fait, il va les trouver tout seul suivant le modèle en fait, l'éditeur aussi. Il va trouver tout seul les skills, tout ce qui le concerne. De toute façon, maintenant, il y a différents fichiers, en fait. Tu as soit un .ai, soit un .claude code, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà, en fonction de ton modèle.
Et ouais. Et pour le coup, tu aurais pu largement utiliser Tailwind V4. Et tu aurais injecté ce skills-là, en fait, et ça t'aurait permis de pouvoir...
Je vais réessayer avec ça. Ouais, je vais le refaire et je vais lui mettre des skills et on va voir s'il arrive. Mais c'est quand même dingue. Après, c'est normal. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a des... Tu vois, on est obligé d'étoffer au fur et à mesure les outils. On met des trucs, on rajoute des trucs, on rajoute encore des trucs. Ça devient complexe. Et autant des fois, c'est super. Franchement, moi, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est test et tout ça. J'adore faire écrire les tests par l'IA, tout ça. Ça me fait gagner du temps. Mais il y a des fois, tu perds un temps de dingue, quoi. Elle tourne en rond.
Ouais. Et tu vois, en fait, je pense que notre métier, nous, en tant que dev, il est en train d'évoluer, tu vois. Et avec ces skills-là, en fait, on devient... alors, si on veut se la péter, on va dire qu'on va plus vite devenir lead dev. Et en fait, toi... Ton job, ça va être de planifier, d'écrire les specs, de dire qu'est-ce que tu veux, ce que tu veux, comment tu le veux. Et c'est à travers ces skills-là, à travers des PRD, à travers une méthodologie où tu vas utiliser des fichiers Markdown, où tu vas écrire beaucoup, tu vas spécifier. Et après, quand tu vas lancer ton agent, toi, tu vas relire le code et en fait, tu vas faire de la spécificité vraiment particulière où tu vas faire de la relecture et tu vas valider ou pas le résultat en fait de l'agent, tu vois. Et donc, tu vas faire. C'est un peu comme si tu faisais la relecture de code et tu valides quoi. Sauf que au lieu d'avoir des personnes, en fait, c'est l'agent qui a fait le taf quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça. Et
donc notre après, job évolue, quoi. Notre job évolue vraiment.
Ouais, mais c'est pas. Je crois que va aller élever des chèvres dans le Larzac.
C'est pas la direction que tu aimes,
en fait. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, je sais pas. Non, c'est.
Alors, tu vois, moi, je fais souvent le parallèle avec les menuisiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de meubles qui sont faits par des usines qui où en fait ça débite l'intégralité des choses. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des usines qu'il y a plus de menuisiers qui font tout à la main. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, l'un ne veut pas dire l'autre.
Alors attention, ne pensez pas que je suis contre l'IA, etc. J'adore ça, je m'en sers tous les jours. Calmez-vous. Non, par contre, non, en fait, moi, j'aime coder. Donc, c'est vrai que ça me dérange un peu de passer mon temps à lire du code, tout ça. Enfin bref, à perdre du temps aussi beaucoup. Parce que franchement, bon, on en reparlera peut-être sur un autre épisode. Mais il y a eu des études aussi qui montrent que le vibe coding, des fois, c'est la réalité perçue de gain de temps et la réalité sur les chiffres, elle est pas. Tu gagnes pas tellement de temps en fait pour parce que okay. Voilà, comme je te dis, des fois ça tourne en rond, etc. Il y a des études qui sont sorties là-dessus, mais oui, ça s'améliore, etc. Mais après, voilà, on va faire face à d'autres problèmes. Après, ça sort du code, etc. Au niveau de l'énergie, de l'IA, tout ça, des data centers et tout ça. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que après, je trouve qu'aussi, tu vois, c'est mon épisode coup de gueule.
Ouais, il est pas content, Patrick, ouais, pas content.
Non, je trouve qu'en ce moment, alors c'est super le vibe coding, tout ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'outils aussi qui sont créés en vibe code qui servent à rien, en fait. Il y a beaucoup de code poubelle, en fait. Des trucs qui sont créés, qui vont servir à rien, des repos. Enfin, voilà. Donc, on gaspille beaucoup d'énergie, en fait. Mais
useless. Après, ouais, mais c'est comme tout. C'est est-ce qu'on arrive à utiliser ces outils pour faire. Des choses qui sont intéressantes, qui amènent de la valeur, mais ça en fait c'est pas toi qui décides, c'est les gens. S'ils l'utilisent pas, bon bah en fait tu crées une application, il y a personne qui l'utilise, bon bah donne quoi, tu vois, c'est simple.
Ouais, c'est ça. Maintenant tu avais déjà les mecs qui voulaient créer des SaaS pour devenir riche, maintenant ils veulent faire des SaaS avec en vibe coding pour devenir riche, c'est génial.
Exactement. Mais le problème n'est pas là,
SaaS, tu vois, c'était que coder, c'était ça serait génial.
Exactement, ça serait vachement plus facile.
Ouais, c'est clair. Bon, bref.
Allez, on bascule, on parle de Claude Code, on parle de Codex, qui sont les plus gros. Et il y a un modèle open source. Alors, c'est un modèle... Exactement, qui s'appelle Open Code, qui est sorti, qui, lui, a pour but...
L'équivalent de Claude Code.
Qui est l'équivalent de Claude Code, mais qui a plus vocation d'être open source. Alors, en quoi on peut valider sur le fait qu'il est open source ? On peut le faire évoluer ?
Il est multi-provider, en fait. Là où Claude Code, t'es branché par défaut sur Anthropic, c'est normal, hein, c'est Claude Code. Et tu peux éventuellement faire tourner sur un modèle local si tu as beaucoup d'argent. Open Code est donc open source et tu peux mettre différents providers. Donc, il y a toute une liste et tu peux même créer ton custom provider. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'avantages d'utiliser Open Code puisque du coup, tu peux mixer. En fait, tu peux passer d'un à l'autre modèle comme tu veux en fonction de tes comptes, etc., de ce que tu veux faire. Il y a peut-être des modèles aussi qui sont peut-être plus performants pour certaines tâches et d'autres moins, etc. Donc voilà, tu peux te brancher à plein de providers et du coup, c'est plus flex et t'es moins lié à un provider unique, quoi. Donc c'est pas mal. Ouais.
Excellent.
Et c'est le fonctionnement est quasiment identique, en fait.
Et t'as utilisé déjà ou pas encore ?
Ouais, j'ai utilisé tout à l'heure, là. Ouais. Je m'amusais avec. Justement, je l'ai branché à GitHub Copilot pour voir tout ça, pour pas le brancher à Anthropic, tu vois. Donc, ouais. Je voulais changer un peu. Donc, non, il est cool. Moi, enfin, j'aurais... Claude Code, là, je l'ai essayé plusieurs fois déjà. Enfin, je l'ai testé pas mal. Et celui-là, il me semble équivalent, mais j'opterais plus pour ça, tu vois. Le fait d'avoir plusieurs providers, quoi. C'est quand même mieux.
Yes, à tester. Moi, j'ai pas encore joué avec. Je vais tester. Je le ferai. J'irai voir un peu.
Ça bouffe énormément de tokens. Hein. Ça c'est la réalité, c'est que ça va vite. Hein.
Ouais. Et aujourd'hui, les tokens sont pas chers. Aujourd'hui, les tokens sont pas chers. Parce que
c'est clair.
Tu vois, même si on prend des gros modèles, des gros plans sur Cloud Code où là il y a des forfaits à 200 balles, tu te dis ouais, c'est très super cher. Mais non, en fait, par rapport au nombre de tokens que tu peux cramer, en fait, c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Donc, ce n'est pas tenable. C'est impossible que ces tokens restent aussi chers. Après,
oui, verra, de toute façon, n'oubliez, faut pas oublier qu'aujourd'hui, tous, là, ils perdent beaucoup d'argent.
Oui.
Ils sont plus dans une phase d'investissement, etc., de levée de fonds et tout ça. Et voilà, comme on
et de capitalisation de l'utilisateur captif.
Donc, on sait très bien. Et d'ailleurs, tu vois, Anthropic s'en sort très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en 6 mois, ils ont doublé leurs revenus. Enfin, attention, revenus, c'est pas bénéfice, mais voilà, en 6 mois, ils ont augmenté les revenus. Cloud Code, etc., n'y est pas pour rien. Évidemment, et comme je viens de le dire, ça bouffe beaucoup de tokens. Donc oui, c'est magique, ça marche bien, etc. Mais ça peut coûter très cher. Alors, attention à ce que vous faites.
À tester, yes.
Ouais.
On parle d'Open Code. Et donc du coup, la suite pour, on va dire, ouvrir un peu plus, bah, c'est QuenCode.
Ouais, modèle chinois Quen, assez performant. Et du coup, quand tu es sur OpenCode, que tu regardes les providers, il n'y a pas Quen dedans. Puisque, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et parce qu'il existe QuenCode, qui est un équivalent de CloudCode, et de CloudCode plutôt, puisque c'est branché sur Quen, sur le modèle d'Alibaba. Donc, okay. Ça marche exactement de la même manière. Par contre, eux, ils sont généreux. Ils donnent, y a un free tier assez généreux quand même, tous les mois.
Ok.
Donc c'est intéressant. Et voilà. Pas mal.
Top. Allez, quelqu'un de Javi qui nous parle de VibeCode. Qu'est-ce qu'il nous dit ?
Alors, petit article. Il est tout frais, il est d'hier, je crois. En fait, c'est pour revenir un petit peu sur cette folie de Twitter/X où on a énormément de messages, que ce soit de personnes ou de bots qui sont beaucoup de mensonges aussi. Et en fait, lui, il explique sa mésaventure. Alors, en gros, la semaine dernière, Remotion a sorti une connexion avec Cloud pour pouvoir générer en fait des vidéos avec Remotion. Remotion, qui est un générateur de vidéos avec des composants React, etc. Donc, c'est du code.
Basé sur le code, ouais. Tu génères des vidéos à partir de ton code.
Et donc, lui, il explique sa mésaventure, c'est qu'il a testé, il a vu la vidéo, ouais, j'ai fait cette vidéo en imprompt avec Remotion et Cloud, etc. Un truc de dingue, tu vois. Donc, il s'est dit, putain, c'est génial, je vais essayer. Le mec, il explique qu'il a passé, il essaye, machin, ouais, pas top, la vidéo et tout ça. Et au final, il passe quasiment 2-3 jours dessus et tout, la vidéo à la fin, pas terrible et tout. Il retourne sur le message et puis il lit les commentaires dessous et puis il se rend compte qu'en fait, c'était du fake, en fait, que la vidéo, elle venait pas du tout de, de Cloud Remotion, en fait, parce que c'était une vraie vidéo, voilà.
Avec donc, After Effects et tout, quoi.
Voilà, donc il explique qu'en fait, faut qu'on arrête de se faire avoir, en fait, par tous ces messages bidons, en fait. Donc ça, c'est la vidéo qu'il a fini par faire, en fait, à la fin. Mais avec beaucoup, beaucoup de travail et non pas en un seul prompt, comme il explique certains. Donc voilà, c'était juste pour dire, méfiez-vous de tous ces messages-là qui sont juste, qui font rêver. Rien ne se fait en un prompt et rien ne se fait en 5 minutes. Quoi. Voilà.
Non, c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup trop de compétences. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Et surtout sur Remotion, qui est un outil de vidéo. Ouais. En fait, si on n'a pas un sens artistique et de composition, de mise en scène, de dire, OK, là, je veux ça pendant tant de secondes, tel plan, tel plan, tel plan. Voilà, ça, c'est des compétences de création de photos, création de vidéos. Et donc, en fait, on va juste utiliser... Pour créer ces scènes, on va utiliser du code. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir l'automatiser pour injecter des données et tout. Très bien. Mais il faut une véritable compétence artistique et, de vidéo. Et donc, là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et en plus, si on rajoute par-dessus ça, bah, tous ces skills d'IA, de prompting, de génération, de test, de séquençage de tâches, ouais... C'est pas du YOLO prompting à 2 balles. Tu vois.
Remotion, c'est top. Hein. Qui sortent Remotion avec des exemples de code et tout ça que Vercel utilisait. C'est top du top. Hein.
Ouais, non, mais c'est super puissant. Super puissant.
Allez, c'est parti, on continue.
Allez, Moltbot, c'est quoi Moltbot?
Alors, est-ce que tu as suivi alors? Alors, à la base, alors il a changé de nom aujourd'hui. Hein.
ça va tellement vite qu'il a changé le nom.
Le truc, ça va tellement vite qu'il a changé de nom en deux secondes. En fait, c'était Cloudbot.
CloudBot.
Ils n'ont pas encore changé le nom de domaine. En fait, ils ont été obligés de changer, je crois, aujourd'hui, hier. Parce qu'en fait, c'était déposé par Anthropique. Donc, on dit, les gars, non, ça ne marche pas.
OK. Mais clairement, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là ?
Ce truc est super récent. Il a été développé il n'y a pas très longtemps. Et il a explosé à peu près là, en une semaine, il a complètement explosé. Le nombre de stars, etc. Enfin,
en termes de popularité, on voyait ça partout. Ça a inondé tous les...
Twitter.
Ouais. Mais moi, je suis rentré dans la hype. Je l'ai regardé. J'ai mis l'étoile. Je l'ai rangé dans ma catégorie IA. Et je dis, OK, ça peut être cool. Ça peut être cool sur des petites tâches. Mais déjà, qu'est-ce que ça fait ? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore expliqué ce que ça fait.
C'est un système que tu installes sur ton ordi. Enfin, c'est un système que tu installes sur un OS, voilà, qui va avoir accès à tout ton ordi. Tu vas pouvoir discuter avec lui via des messageries du style WhatsApp
comme Telegram, ça. Signal.
Ouais, tout ce qui existe. Et tu vas discuter avec lui, tu vas lui faire faire des choses, etc. Et il a accès au navigateur, il a accès donc à tout ton ordi, à tes mails, etc. Tu peux le brancher à différents trucs, etc. Et donc, c'est une sorte d'agent qui fait un peu ce que tu lui demandes, etc.
Donc, c'est un super agent personnel qui va pouvoir exécuter des tâches ou en tout cas automatiser des tâches directement sur ton ordinateur parce que tu lui as donné les clés de ton ordi. Mmh.
Voilà, donc tu vois des messages un petit peu aberrants du style, il y en a un, il dit « Ah, j'ai migré mon site de Notion à, je sais plus quoi, Astro, pendant que je regardais Netflix en discutant sur
avec
le chat. »
Avec Cloudbot, ouais.
Super. J'ai envie de dire super.
Ouais, après, tu vois, il y a...
Faut de quoi.
Ouais, après, il y a genre, tu vois, des relances de messages, des relances, par exemple, tu vois, pour des personnes qui ont des rendez-vous, mais qui n'ont pas encore un système automatisé et tout, et ben en fait, avec ce type de solution, tu vas pouvoir plus facilement te dire, OK, bah, tu vas regarder dans mon calendrier, tu prends le numéro de téléphone et tu lui envoies un message de confirmation. Tu vois, ça, par exemple, c'est des choses que tu vas pouvoir automatiser assez facilement. Même si tu n'es pas en fait un développeur et parce que ça on pourrait le faire avec une espèce de cron qui tourne et qui regarde, qui va appeler l'API de ton calendrier et qui va extraire le numéro, qui envoie un SMS basique, tu vois. Sauf que là, vu qu'il a accès à ton ordinateur, c'est comme si c'était toi qui le faisais. Donc il y a une sorte d'automatisation. Je vois un gros potentiel. En fait, c'est un peu la solution qui te remplace, si tu veux, ou l'agent va vraiment prendre la souris à ta place et naviguer, machin, tout. Après, pour moi, ça me pose un peu des questions de sécurité. Ça me paraît le premier truc un peu plus.
Le problème, il est là, en fait. Le problème, il est là, c'est que ce truc... Alors, auditeurs, n'installez pas ça sur votre ordinateur, surtout pas. Parce que c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a eu un peu une vague d'achats de Mac Mini, machin, pour installer ça. Dans l'idéal, il faut l'installer sur un ordi qui n'a accès à rien d'autre que ce qu'il y a sur l'ordi et pas les trucs perso. Et à la limite, tu donnes accès à des trucs perso, mais voilà, truc par truc, quoi. Parce qu'il y a un gros souci de sécurité et surtout, d'après les tests, tout ça, il n'y a pas de garde-fou, en fait. Suivant ce qu'on peut lui dire sur le chat ou n'importe quoi, il va le faire, en fait, tout simplement. Il y a une injection de prompt qui est toujours présente et qui peut être très dangereuse, puisque dans un mail, un PDF, n'importe quoi, une injection de prompt, le mec, il peut accéder à ce que tu veux. C'est hyper dangereux, en fait. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'en fait, il y a une énorme hype cette semaine avec cet outil. Donc, on peut se retrouver avec des personnes qui vont installer ça sans vraiment comprendre ce qu'ils font. et avoir des gros problèmes de sécurité. Et
je pense que le vrai problème est là, c'est en fait de jouer avec des outils qu'on ne comprend pas et où on autorise, on autorise des accès sans comprendre les tenants, les aboutissants. J'aime pas, tu vois, moi, j'aime pas trop faire peur, quoi, de dire, tu vois, c'est dangereux, tout. Moi, j'aurais envie de dire, faites super gaffe. Enfin, ouais, c'est soyez vraiment conscient avec quoi vous jouez et quand vous cliquez sur autoriser, qu'est-ce que ça a comme impact, en fait. Et allez mesurer tous les impacts que ça a quand vous cliquez sur autoriser. Et malheureusement, en fait, comme tu l'as dit, beaucoup trop de gens ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de l'autorisation qu'on leur donne, quoi. Donc, après, j'espère quand même que c'est quand même un peu contrôlé et il y a quand même pas mal de mecs qui contribuent, tu vois, sur... quand il y a une communauté, en fait, souvent, c'est plus difficile de mettre du code malicieux à l'intérieur de ce bot. Par contre, là où je pense que ça serait plutôt des attaques en mode 3 bandes, quoi. C'est-à-dire, les personnes qui ont installé ça sont les victimes et l'attaquant, en fait, sait qu'il utilise ce système-là et donc il va utiliser des prompts ou des techniques qui vont permettre à ce bot-là d'exécuter des tâches pour l'attaquant. Donc, on va rentrer dans des systèmes qui sont méga complexes.
Mais malheureusement, tu vois, aujourd'hui les modèles IA ont des vraies failles de sécurité qui existent et qui ne sont pas résolues et c'est un peu le problème aussi des navigateurs agentiques et c'est pour ça qu'on en entend, je sais pas si t'as remarqué, mais on entend beaucoup moins parler. Bien parce sûr. Que les navigateurs agentiques ont des gros problèmes d'injection de prompt et là c'est pareil, quoi. Il y a des problèmes de sécurité au niveau du modèle, donc c'est vraiment au cœur du truc. Donc si vous voulez tester ce truc là, soit vous avez un ordinateur où il n'y a rien dessus, soit vous prenez un VPS, parce que ça marche aussi sur un VPS. Vous prenez un truc cloud, VPS à 5 balles, et vous le mettez dessus, quoi. Voilà. Mais surtout pas sur l'ordi, quoi. Surtout pas.
Après, faites comme vous voulez, mais prenez conscience de ce que vous faites, quoi. Prenez vraiment conscience de ce que vous faites. Yes. Donc on pourrait résumer un autre tweet qui dit ne l'installez pas, quoi.
Ouais.
Ne le faites pas.
De toute façon, il y a eu énormément de messages sur ce truc, c'est juste de la folie.
Ouais, voilà.
Mais il y a un emballement de fou quoi, en ce moment sur l'IA et c'est grave en fait.
Allez, donc, deux extensions IA pour VS Code qui ont réussi à se faire pirater ou c'est quoi ?
Non, c'est deux extensions qui ont volé des datas de 1,5 million de développeurs. Voilà, il y avait deux extensions qui étaient destinées à ça, avec c'était IA, je sais pas quoi, Chatmos, je sais pas quoi, des trucs de voilà, ChatGPT machin, IA coding, vibe coding. Sauf que c'était des mauvaises applications sur le store et qu'elles ont volé énormément de data. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont volé, mais voilà. Beaucoup de développeurs se sont fait avoir.
Et qu'est-ce qu'ils chopaient ? Qu'est-ce qu'ils récupéraient ? Des clés SSH ou des choses comme ça ?
Des clés tout ça. Quoi. Ouais, tout ce qui est, tout ce qui est clé, etc. Ouais.
Et ouais.
D'autant que suivant l'IA, ce que tu peux lui donner comme accès, quand elle te demande accès à autre chose que le répertoire où elle est, si tu dis hello, elle peut aller chercher d'autres trucs dans ton ordi. Donc, voilà.
Et on redit encore une fois, n'autorisez pas, lisez les tenants, les aboutissants de l'autorisation. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je trouve ça hyper vicieux, en fait, parce que les OS ou les logiciels te demandent, mais est-ce que tu autorises ? Tu vois, et en fait, c'est comme s'ils te reportaient la responsabilité et eux, en fait, se dédouanent de toute responsabilité, tu vois, et ils font porter sur toi la responsabilité d'installer. Je comprends, mais bon, il faudrait peut-être mettre des vérifications en amont avant de mettre en place des marketplaces qui distribuent des extensions. Est-ce que tu es sûr que ton extension, elle n'est pas malveillante, tu vois?
En parlant d'OS, je rebondis là-dessus.
Ouais.
Je suis chaud aujourd'hui. Non, Windows.
Pas content, Patrick. Pas content.
Pas content. Non, Windows qui est en train de devenir une. En gros, Windows est en train de devenir une plateforme IA, en fait. Donc, Microsoft intègre le plus possible d'IA dedans.
Copilote est
Donc,
partout,
en
hein.
gros, voilà. Et donc, l'IA sera présente et même imposée. Hein. De toute façon, c'est déjà le cas. Hein. Elle est imposée dans pas mal de produits Microsoft. Elle va être imposée dans Windows. Et tous les spécialistes en sécurité crient en disant c'est la pire idée qu'on puisse faire. Ne faites pas ça, Windows, tout ça. Ne faites jamais ça. Mais apparemment, ils sont partis là-dessus. Donc, on va bien rigoler dans quelques années. Enfin, même dans 6 mois, je pense. Mais voilà,
On verra.
ça va être un peu une catastrophe.
De toute façon, on suivra l'actualité, ça c'est sûr.
Ouais.
Allez, on
Allez,
passe
on fait
sur,
un
un,
peu de code.
sur autre chose. Même Lab qui analyse en fait les leaks en fait de JS ou tous les problèmes de perf.
De mémoire, ouais.
Et de qui sont liés à la mémoire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert?
Ah, c'est un outil qui nous vient de Meta, de Facebook, et c'est un système où tu vas pouvoir analyser les fuites de mémoire au niveau de ton code JS. Donc en fait, tu vas écrire un test qui va jouer dans un navigateur, et lui, en fait, il va analyser les fuites de mémoire au niveau de ton code, et après, il te sort un rapport entre ce qu'il faut améliorer, etc., quoi. Donc c'est plutôt pas mal
Alors,
pour des grosses applications.
c'est un outil de diagnostic où il va aussi te faire des recommandations.
J'ai pas testé, alors je peux pas dire,
Ok.
mais je pense
Ok.
qu'il te fait des recommandations et il te dit
Ouais,
telle fonction
mais enfin,
a un problème,
déjà,
etc.
tu vois en fait à quel endroit tu as une fuite. Et donc, déjà, après, toi, c'est déjà énorme. Et après, bah, c'est à toi de pallier. Est-ce qu'au moins tu sais déjà où regarder, quoi? Est-ce qui rien que ça est déjà énorme, quoi?
Ouais, déjà qu'avec les outils ESLint, TypeScript, tout ça, on a déjà pas mal de choses qui nous indiquent les erreurs, tout ça, de variables, etc. Donc si en plus tu peux rajouter des trucs comme ça sur des grosses applications ou ouais, qui ont peut-être voilà, qui bouffent pas mal de processeurs ou quoi, ça peut être intéressant, ouais.
Ouais, top.
Pour économiser du cloud, c'est pas mal.
Yes. La
Allez, un petit
suite.
dernier.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Un petit truc léger, allez.
Un petit truc léger, c'est un petit tools.
Pas
Alors
d'IA.
là,
Du
je le
code.
découvre avec toi, en fait.
Ouais.
Ah
Waouh.
oui, c'est les petites animations sur les chiffres. Donc, si on met des statistiques ou des chiffres qu'on met en avant sur des landing pages ou
Ouais.
des choses comme ça,
La monnaie, n'importe,
la
ouais.
petite animation qui fait que ça biche.
Ça
Ok,
déchire.
ouais, c'est très joli, très joli.
Et c'est multi-framework en plus. C'est React, Vue,
Multi-framework.
etc.
Pas de dépendance, on met la
C'est beau.
valeur, bim, c'est tout de suite intégré, c'est logique, c'est très joli, c'est léger, très intéressant, très intéressant sur
Ça te plaît,
Ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pas de l'animation bling-bling. C'est de
hein?
l'animation qui amène une toute petite légèreté. Et
Ouais, une expérience
ça
utilisateur, quoi,
fait
qui est plus
exactement.
intéressante.
Ça fait son tout petit. Ça fait son effet. C'est pas grand-chose, mais ça marche. Et non, c'est très, très, très joli. Donc, je ne peux que valider. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est
C'est
vraiment
classe.
classe. Ouais, non, c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Écoute, parfait. Très bonne finalité de finir sur cette petite touche de légèreté, de sensibilité côté artistique, sans trop. Voilà, pour nous développeurs, souvent, où le sens artistique n'est pas toujours mis en avant. Là, en fait, on a une librairie qui fait le taf et c'est plutôt cool. Donc, autant la mettre en avant. Top. Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode.
Yeah, carrément.
Mot de la fin.
Ouais.
pensez à mettre un petit pouce, un petit commentaire, partager l'épisode, évidemment. Ça nous fait super plaisir. Pour les plus courageux et ceux qui le peuvent, GitHub Sponsor, pour nous sponsoriser, ça nous fait exceptionnellement plaisir. Et sinon, le partage est toujours le bienvenu. On vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao.
Ciao.